Pourquoi on continue notre étude sur les survols des 66 livres de la Bible? On en est rendu à notre 16e livre. Alors, ça va pas vite, mais ça avance. Ça avance continuellement. On est rendu à Néhémie. Ce soir, on va voir Néhémie dans la première partie. Comme d'habitude, en général, la plupart des livres sont présentés en deux parties. La première partie, c'est plus comme un arrière-plan. Et un plan du livre en général. Et la deuxième partie est un petit peu plus détaillée. Certains livres ont trois leçons, mais en général, c'est deux. Alors, on va ce soir regarder Néhémie. Donc, l'arrière-plan du livre, le but principal du livre de Néhémie, le plan, les thèmes majeurs qu'il y a à l'intérieur du livre, les personnages clés, les versets clés, les leçons pour le peuple de Dieu d'alors et d'aujourd'hui, et la place et la présence de Jésus-Christ à l'intérieur du livre de Néhémie. On va commencer par l'arrière-plan. L'auteur, selon la tradition juive et chrétienne, on attribue à Esdras, le scribe, la rédaction des livres de Esdras et de Néhémie. La date de composition du livre. Les livres d'Esdras et de Néhémie couvrent une période de presque un siècle. Les chapitres 1 à 6 d'Esdras se déroulent durant la période de 537 à 515 avant Jésus-Christ, et les chapitres 7 à 10 et tout le livre de Néhémie se déroulent entre 458 et 433 avant Jésus-Christ. Donc la période historique est le cadre du livre. Alors, Cyrus devient roi de Perse en 550 avant Jésus-Christ et conquiert Babylone 11 ans plus tard. Dès sa première année de règne, il publie un édit encourageant les Juifs à retourner en Juda et à rebâtir le temple de Jérusalem. C'est pourquoi, en 538 avant notre ère, 50 000 Juifs retournèrent en Israël sous la conduite de Zorobabel. Malgré une opposition considérable de la part des Samaritains, les ouvriers, fortement encouragés par les prophètes Agée et Zacharie, achèvent la construction du temple. Sa dédicace a lieu en 516 avant Jésus-Christ. Tout annonce une période de stabilité et de développement. On sait peu de choses de la période suivante. L'enthousiasme initial s'essouffla. Les très nombreux Juifs dispersés dans l'Empire perse se désintéressèrent du programme de restauration en Israël et préférèrent s'établir là où ils étaient. L'avenir de la communauté juive en Juda est incertain et décourageant. Babylone resta le centre de la vie pendant des siècles. Un certain nombre de ses exilés et de leurs descendants prospérèrent. Quelques-uns, comme Néhémie, atteignirent des positions élevées dans le gouvernement perse. 13 ans après le retour du second contingent d'exilés, sous la conduite d'Esdras, Néhémie reçoit des nouvelles de la situation déplorable de la vie à Jérusalem. Il en est vivement touché. Il renonce alors au confort et au luxe de la Perse, ainsi qu'à son statut, et décide de rejoindre le peuple de Dieu qui souffre à Jérusalem. Alors, en passant, je me souviens qu'à l'école biblique, j'ai fait une recherche sur le personnage de Néhémie. C'est tout un personnage. Il y a du caractère, ce bonhomme-là. Il avait vraiment énormément de caractère. Alors, il était rendu serviteur du roi avec un poste très élevé, très confortable. Et quand il a su que ça allait pas bien avec ceux qui avaient été retournés à Jérusalem, il a tout sacrifié ça pour aller les aider à reconstruire. Alors, le but principal du livre. Néhémie devait être habitué à rendre compte au roi des missions qui lui étaient confiées. Il transpose cette habitude sur le plan spirituel. Son rapport s'adresse tout d'abord à Dieu. Ensuite, il écrit afin de consigner l'histoire d'une époque cruciale de l'époque juive Il veut faire un rapport fidèle des événements qui ont marqué la réinstallation du peuple dans le pays de la promesse. Ce faisant, il veut rendre témoignage de la fidélité de Dieu qui a accompli son dessein en utilisant des rois païens. Très intéressant cet aspect-là, que Dieu a permis de renvoyer le peuple qui était à Babylone, de les renvoyer reconstruire à la fois le temple et à la fois la ville de Jérusalem, puis il le fait par l'intermédiaire de rois païens qui sont mentionnés ici, les trois rois païens, Cyrus, Darius et Artaxerxès. Et certains conducteurs juifs comme Esdras, Agis, Zacharie et Zorobabel. Ces bénédictions ont soutenu le peuple après le retour face aux attaques dont il fut l'objet. Consciemment ou non, il nous donne par son exemple un modèle de chef spirituel agissant sous la direction de Dieu pour le bien du peuple. Constamment, il recourt à la prière pour recevoir les directives divines. Et Dieu lui donne la sagacité et la ténacité nécessaires pour déjouer les ruses de l'ennemi. L'histoire d'Esdras est insérée au chapitre 8 à 10 pour montrer que la restauration de l'obéissance à la loi dans le cœur des croyants est aussi importante que celle des remparts de la ville. Le livre suit donc un mouvement rigoureusement parallèle à celui d'Esdras. Le premier séjour de Néhémie s'achève sur le tableau du culte restauré sous la conduite d'hommes choisis par Dieu. Le peuple rétabli dans sa ville accomplit la mission spécifique qui est la sienne, louer et adorer son Dieu. Même sans roi, il répond à sa vocation première. Chose qui est intéressante, qui est mentionnée, c'est que il y avait la reconstruction à la fois du temple de la ville, mais il y avait la reconstruction théologique du peuple. Les deux allaient ensemble. Un, c'était un mur spirituel, l'autre, c'était un mur physique. C'est intéressant de voir que l'un ne peut pas aller sans l'autre. S'il y aurait juste fait reconstruire la ville, reconstruire le temple, et qu'il n'y aurait pas eu en même temps cette instruction qu'Esdras et que Néhémie ont donnée au peuple, dans le sens de rétablir leur force spirituelle par l'enseignement. Très intéressant, ça. Alors, le plan, si on regarde le thème et la séquence des livres d'Esdras, Néhémie, Esther, il y a trois livres qui se suivent, mais vous allez voir qu'il y a un thème qui se distingue un livre de l'autre. Pour Esdras, le thème, c'est la restauration. Pour Néhémie, c'est la reconstruction. Parce que quand vous lisez le livre de Néhémie, vous allez voir que pendant qu'il essayait de construire, les Arabes et d'autres nations ont continuellement attaqué dans le but de les arrêter. Aussi, le livre d'Esther, c'est la préservation. Quand vous regardez les trois, dans l'ordre, d'abord la restauration, ensuite la reconstruction, ensuite la préservation, on voit la main de Dieu dans le développement des trois livres. Alors, le livre de Néhémie comprend deux parties. La reconstruction du mur, du chapitre 1 aller jusqu'au chapitre 7, et la réinstruction du peuple. C'est ce qu'on disait tantôt, alors le mur est important, mais la réinstruction du peuple était également très importante. L'un n'allait pas sans l'autre. À la page 4, ceux qui ont les notes, je vous ai fait le plan du livre de Néhémie, dont le thème est « Édifier le royaume de Dieu par la prière, le dur labeur et la persévérance. » Alors, je vous laisse regarder ça. C'est intéressant. Quand on veut étudier un livre, comme si vous voulez étudier Néhémie, je vous conseille, enfin, plusieurs fois je le dis, mais je le dis encore, reprenez vos notes, regardez le plan du livre avant de le lire. Puis vous allez voir comment tout ça s'articule, puis quelles sont les principales leçons spirituelles du livre. Alors, c'est très intéressant. Alors, on voit vraiment de 1 à 7, 73, c'est vraiment la reconstruction du mur qui nous explique un petit peu comment ça a procédé. Et la deuxième partie, c'est vraiment la réinstruction du peuple par le renouvellement de l'Alliance et l'obéissance à l'Alliance. Alors, on va regarder les thèmes majeurs qu'il y a à l'intérieur du livre de Néhémie. Bien entendu, il y a celui du sacrifice personnel. Tout à l'heure, on parlait que Néhémie était dans une position... Quand la personne qui offrait le vin au roi, là, c'était la position... C'était comme aujourd'hui le ministre des Finances. C'était très important. C'était une position de confiance. C'était comme le bras droit du roi. Il était là, lui. Puis quand il entend parler que ça allait mal à Jérusalem, il abandonne tout ça, puis il s'en va. Puis il arrive dans Jérusalem, tout était détruit, si vous vous souvenez un petit peu de l'histoire. C'est très intéressant, c'est un homme courageux. Alors, Néhémie n'était pas simplement un majordome chargé de servir le vin. Il était à l'évidence l'un des hommes les plus dignes de confiance du royaume. Les chansons, on appelait ça, ce poste-là, on appelait ça les chansons, devaient goûter le vin versé dans la coupe du roi avant que celui-ci n'en boive, afin de s'assurer qu'il n'était pas empoisonné. Alors, c'était comme le roi, fallait qu'il ait confiance en cet homme-là, pas à peu près. Là. Alors, comme c'était souvent le cas, un tel poste de confiance signifiait que les chansons agissaient aussi comme conseiller du roi. Le fait que le roi l'ait désigné comme gouverneur de Juda confirme le rôle privilégié et respecté de Néhémie. Non seulement le roi consent à ce qu'il aille à Jérusalem, mais il le nomme gouverneur. Alors, il voyait tout de suite les possossibilités de leadership de cet homme-là. Alors, celui-ci devait également posséder de très grandes connaissances administratives. Néhémie était visiblement d'une stature spirituelle remarquable. Il est profondément affecté par les nouvelles désastreuses de la lointaine ville de Jérusalem. Il prie avec ferveur et persévérance pour avoir la sagesse et les directives qui lui permettront de réagir personnellement. Il renonce volontairement au confort de la cour perse et à son propre poste prestigieux pour parcourir plus de 1500 kilomètres à travers des terrains arides jusqu'aux ruines d'une ville autrefois célèbre. Imaginez-vous, il fait 1500 kilomètres, puis tu arrives là, puis la ville est détruite, avait été rasée. Imaginez-vous le spectacle que ça devait donner dans son esprit. Moi, je reviens ici pour la reconstruire. Il devait voir tout d'avance les difficultés qu'il était pour rencontrer. Alors, on voit que c'est un homme de caractère. Alors, il fait tout cela pour l'honneur et la gloire de Dieu. Néhémie est un bel exemple d'homme qui place sa confiance en Dieu d'abord, qui fait sa carrière professionnelle après les besoins du royaume de Dieu et qui accepte volontairement de tout abandonner quand l'Éternel le lui demande. Il y a un deuxième thème qu'il y a dans le livre, c'est celui du jeûne et de la prière. Néhémie montre que tout travail efficace pour Dieu commence par le jeûne et la prière persévérante. C'est aussi le moyen de surmonter les crises ou les difficultés majeures. Le jeûne est un aspect important de la vie de piété du chrétien. Malheureusement, ça ne se pratique plus beaucoup de nos jours. Cette activité discrète s'associe intimement à la prière. Autant que possible, il est préférable que personne ne soit au courant. Agenouillés, nous crions, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Un peu comme Paul a demandé au Seigneur à partir du moment qu'il a été sauvé. Les prières de Néhémie enseignent une autre leçon. Il s'adresse à Dieu en lui rappelant son alliance, sa nature et ses promesses. Il en appelle à Dieu en s'appuyant sur tout ce que Dieu a révélé de lui-même, de ses desseins et de sa volonté. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Troisième chose qu'on a à apprendre, thème qu'on voit dans le livre de Néhémie, c'est une stratégie pour l'Église. L'inspection nocturne des murs de la ville illustre la place de la stratégie et de la planification dans l'œuvre de Dieu. Dieu avait suggéré l'idée à Néhémie, mais c'était sa responsabilité de trouver le meilleur moyen d'atteindre l'objectif. Tout doit être mis au service de Dieu, que ce soit nos talents naturels, nos dons innés, les techniques apprises, la maturité et la perception spirituelle. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières. Le don de tout notre être, corps, âme, esprit, avec toutes les connaissances, l'instruction et la sagesse accumulées en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Voilà notre culte raisonnable. La deuxième étape du plan de Néhémie consistait à motiver les travailleurs pour le service de Dieu. À l'époque du Nouveau Testament, Joseph reçut le surnom Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation ». Il avait l'art et la manière de stimuler les autres dans leur travail pour le Seigneur. En troisième lieu, Néhémie utilisait à bon escient le savoir et le savoir-faire d'une grande quantité de personnes. Cela illustre une vérité. Tous les croyants ont une contribution à apporter au bien-être et au développement de l'Église de Christ. La tâche des responsables d'Église est de perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Pour cela, il faut instruire les membres de l'Église locale, organiser le travail, le faciliter et motiver les ouvriers de sorte que l'œuvre de Dieu s'affermisse et se développe. Il y aurait beaucoup de choses à dire à ce niveau-là, étudier Néhémie et étudier l'organisation qu'une Église peut prendre, disons, pour avancer dans l'évangélisation. Il y aurait des beaux parallèles à faire, des super de beaux parallèles. Et un autre thème, c'est celui de la fidélité de Dieu. Alors, les chapitres 40 à 50 du livre d'Ésaïe prophétisent le retour d'Israël dans leur pays après leur déportation à Babylone. Dieu manifeste sa fidélité en accomplissant ses promesses à leur égard. On se souvient que c'est dans le livre de Jérémie qui avait dit qu'il irait, que si le peuple était infidèle, il les enverrait 70 ans à Babylone. C'est ça qu'il a fait. Au bout de 70 ans, quand Daniel a prié, et parce qu'il se souvenait de la prière de Dieu, la fidélité de Dieu. Nous autres, au bout de 70 ans, bien sûr, on a oublié. Autre thème du livre, c'est la providence divine. En surface, l'initiative du roi Artaxerxès semble être le point de départ de la construction du temple et des murailles de Jérusalem. Mais nous apprenons qu'en fait, c'est la main souveraine de Dieu qui agit en coulisses pour l'accomplissement de ses promesses. Ça a l'air que c'est le roi qui agit, mais dans le fond, en arrière de tout ça, c'est la main de Dieu qui pousse tout ça. Et un autre thème, ça sera celui de la consécration. Néhémie est vraiment un modèle de leadership et de consécration au Seigneur. Bien sûr, comme personnage clé du livre de Néhémie, on a Néhémie lui-même, qu'il était l'échanson du roi Artaxerxès. Il revint à Jérusalem, devint gouverneur et fut le leader de la construction du mur. Il était très zélé et un exemple puissant de leadership. On a aussi Esdras. Esdras était un scribe versé dans les Saintes Écritures. Il enseigna le peuple suite à la convocation de Néhémie. Esdras et les Lévites enseignent la parole de Dieu au peuple. Les Écritures sont lues et expliquées. Le peuple scelle son engagement d'obéir à Dieu par une alliance solennelle. On a aussi les personnages qui étaient des ennemis, dans le fond, là, qui ont contribué à mettre des bâtons dans les roues. C'était Sanballat le Horonite, Tobija l'Ammonite et Geshem l'Arabe. Ils s'opposèrent systématiquement et malicieusement à la reconstruction du mur de Jérusalem. Aujourd'hui, on a encore des ennemis qui, quand une église veut partir à la construction ou à faire avancer l'évangélisation, vous faites certain qu'il va y avoir le démon va se servir de toutes sortes de moyens pour essayer d'empêcher. Et on a aussi le personnage d'Artaxerxès qui était le roi de Perse. Alors, en 458 avant Jésus-Christ, la septième année de son règne, Artaxerxès autorisa Esdras à ramener à Jérusalem un grand nombre d'exilés. En 445 avant Jésus-Christ, la vingtième année de son règne, il permit à Néhémie de faire un premier voyage jusqu'à la capitale juive et d'en rebâtir les murailles. Enfin, la 32e année de son règne, qui était 433 ans avant Jésus-Christ, il autorisa Néhémie, qui séjournait de nouveau depuis un certain temps en Perse, à retourner à Jérusalem et à devenir gouverneur de la ville restaurée et de ses environs. Artaxerxès mourut en 424 avant Jésus-Christ. Quelques versets clés, on a regardé deux. Néhémie, chapitre 4, versets 9 et 21. « Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. » Durant le temps de Spurgeon, il y avait un petit magazine qui s'appelait « The Sword and the Trowel ». C'était l'épée et la truelle. Ça venait de ce livre-là. Dans le fond, le peuple, en construisant le mur, il y avait deux choses qu'il y avait toujours dans les mains. L'épée et la truelle. Avec la truelle, tu construis, puis avec l'épée, tu te défends parce qu'ils ont été attaqués. Alors, c'est vraiment des beaux versets à méditer. Néhémie, chapitre 9, versets 2 et 3. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et leurs iniquités et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Un quart de journée. Si on parle de plusieurs heures. Là. Tu lis devant tout le peuple de Dieu, des femmes, des enfants. Là. Puis pendant un quart de la journée, ils font ça. Puis l'autre quart, après, ils confessent leurs péchés. Imaginez, une grosse assemblée, là, il y avait 50 000 personnes. C'est quelque chose, ça devait être quelque chose à voir. Alors, il y a des leçons aussi pour le peuple de Dieu de l'époque. Alors, les exilés juifs firent face à un environnement hostile à Jérusalem. Les peuples qui habitaient le pays représentaient un danger physique et spirituel pour leur communauté. Esdras et Néhémie érigèrent les murailles pour protéger le peuple et leur permettre de se réinstaller dans le pays. Les murailles de Jérusalem représentent la protection de Dieu pour son peuple. Les murs de la Torah, la loi de Moïse, représentent le désir de Dieu d'avoir un peuple consacré et sanctifié. Et où on a la protection de Dieu, puis le désir de Dieu de bâtir en même temps le peuple, pas juste les murs, le peuple aussi, en même temps. L'un ne va pas sans l'autre. Et pour quelles seraient les leçons du livre de Néhémie par rapport à aujourd'hui? Alors, on peut voir, par exemple, un exemple dans la prière sacerdotale où Jésus exprime une vue similaire à celle d'Esdras et de Néhémie lorsqu'il dit dans Jean 17, versets 15 à 17, « Je te prie de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La prière de Jésus construit une muraille de protection autour de ses disciples durant leur séjour sur cette terre. La parole de Dieu constitue une muraille de protection contre Satan, contre le monde et contre notre vieille nature pécheresse. la place et la présence de Jésus-Christ dans le livre. À ce moment de son histoire, Israël a déjà reçu beaucoup de prophéties extraordinaires concernant le Messie. La pleine révélation des desseins de Dieu relatifs à la venue de son Fils dans le monde est pratiquement complète. Il ne reste plus qu'à faire connaître les prophéties de Malachie. Pour contrer la promesse de Dieu, le diable a conçu une stratégie subtile. Empêcher le retour des exilés de Babylone dans leur patrie. Mais une fois les Juifs revenus dans leur pays, ils s'évertuent à susciter toutes sortes d'empêchements et d'obstacles à l'œuvre de reconstruction. Si les murs de la ville restent en ruine, les Israélites seront des proies faciles pour leurs nombreux adversaires. Le travail de reconstruction des édifices et le rétablissement d'un gouvernement civil, entrepris sous la direction de Néhémie, ainsi que la réforme spirituelle à l'instigation d'Esdras, sont deux aspects essentiels conjoints de la restauration de la nation d'Israël. Le retour des Hébreux dans leur pays revêt une importance capitale pour les promesses de l'Alliance de Dieu. Ce que Néhémie accomplit avec la force de Dieu tient une place vitale dans le déroulement et l'accomplissement du dessein divin pour Christ et son Église. Les applications. Le livre de Néhémie est riche d'enseignements de toutes sortes. Apprenons à méditer les Saintes Écritures. Chaque livre nous apprend des choses. Le livre de Néhémie nous enseigne plusieurs choses, dont nous enseigne sur Dieu lui-même, sa fidélité, sa souveraineté, son contrôle absolu sur l'esprit des rois, des leaders de son peuple et sur son peuple, sa bonté, sa miséricorde, sa grâce et bien d'autres choses encore. Sur les manières aussi de répondre à l'opposition quand nous voulons construire le royaume de Dieu, et ceci autant dans l'opposition extérieure qu'intérieure. Si vous vous souvenez du livre, il y avait l'opposition des nations. On parlait des Arabes, on parlait des Ammonites, mais il y a eu de l'opposition qui venait de l'intérieur. Le peuple même de Dieu se prêtait de l'argent. Il y avait de l'usure qui se faisait, et Néhémie est obligé de les brasser pour qu'il arrête ça. Alors, il y avait de l'opposition extérieure et intérieure. Et il y avait aussi des exemples sur la puissance de la prière, des leçons sur le dur labeur et la persévérance, et aussi sur la nécessité de se réformer constamment et de se repentir, et enfin sur la place de la parole de Dieu dans le combat. Que l'Éternel soit béni, loué et adoré éternellement. Amen.